Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, bonjour, c'est François Beauregard qui vous salue et vous, qui vous accueille pour une nouvelle saison de Sans détour. C'est reparti pour tout l'automne, tout le printemps, en compagnie de Mathieu Tessier à la console, Claire Guérin, notre recherchiste, et nous aurons cette année le plaisir de discuter, d'échanger avec Élisane Pellerin à la revue de presse à 13h. Mais avant tout ça, aujourd'hui, nous allons parler d'aphasie et de grands progrès dans le traitement de l'aphasie avec M. Étienne de Villiers-Sidani, qui est professeur agréé au département de neurologie à l'Université McGill. Nous allons avoir Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piéton Québec. On va parler de la grande nouvelle, en fait, cet été en août, au sujet de la réforme de la sécurité routière qui a été annoncée par le gouvernement. Nous aurons également le plaisir de nous entretenir avec Marie-André Pinchot-Mathieu. Et là, on va parler des organismes communautaires qui sont en danger, un maillon essentiel, mais si fragile dans notre société. Ben, pour commencer, on accueille Julie Châtelain, notre chroniqueuse bien-être, et on va parler des bienfaits de l'art et de l'expression, comment tout ça peut nous aider à sortir de notre coquille et vivre plus heureux. Alors, ouf, c'est chargé à 100 détours! Bonjour Julie!
Bonjour François, bon retour!
Ben, merci, toi aussi, est-ce que tu as eu un bel été?
Oui, ben en fait, j'ai eu des petites vacances là un peu avant la fête du travail. Fait que j'ai eu un été bien chargé moi aussi okay. À la radio.
Oui, oui, je sais que t'es chroniqueuse, animatrice à CKVL.
Hein? Animatrice.
C'est ça, exactement, animatrice.
Oui, c'est ça, donc 2 heures en direct là, par
oui,
jour.
Ah, on sait ce que c'est.
oui, c'est ça.
Ça se fait pas tout seul. Ben bravo. Ben, tant mieux si tu as pu te reposer. Aujourd'hui, ben, on t'accueille pour la première fois de la saison. On va se reparler oui. Régulièrement. Aujourd'hui, tu nous parles de danse et de thérapie.
Mm-hmm. Oui, ben, en fait, je parle de danse-thérapie.
Thérapie, en un mot, oui.
Oui, c'est ça, danse-réunion-thérapie. Mais en fait, c'est le Centre national de danse-thérapie qui va offrir des nombreux programmes de danse qui vont être adaptés. Et pourquoi on appelle ça danse-thérapie? Ben, c'est vraiment parce que c'est pour une clientèle à besoins particuliers. Comme exemple, des enfants qui ont des déficiences intellectuelles, des enfants qui ont aussi un TSA. Puis là, on parle pour les tout petits, il y en a pour les un petit peu plus vieux, même pour les jeunes adultes. Et c'est les Grands Ballets canadiens qui ont... oui, c'est ça, ça se passe au Grand Ballet canadien de Montréal. Et c'est vraiment eux qui ont développé la danse-thérapie. Puis dans le fond, c'est pour dire, ben la danse est accessible à tout le monde.
Exact. Les Grands Ballets canadiens, c'est une référence, là.
Oui.
C'est sérieux, oui.
Non, c'est ça, là. C'est vraiment sérieux. Donc, c'est vraiment des cours qui sont reconnus. C'est avec des spécialistes. Mais ils se sont rendus compte, dans le fond, que la danse, le mouvement, c'est vraiment un outil qui va aider pour aller vers le mieux-être. Ça va être des techniques qui vont aider aussi au développement de la communication, la conscience corporelle, la motricité, la créativité, l'expression, l'estime de soi, donc toutes des choses qui ont un lien avec, finalement, le bien-être de l'humain.
Et ça, évidemment, les groupes de danse, c'est difficile de segmenter ça. Il va falloir que les professeurs de danse doivent être quand même très flexibles parce que la clientèle peut changer. Puis ça peut être un éventail assez large d'âge ou de problématiques.
Oui, bien c'est ça. C'est pour ça qu'ils vont s'entourer. Il va avoir un professeur de danse dans le cours et il va avoir, exemple, un professeur de danse, mais qui est aussi ergothérapeute, qui a d'autres formations pour venir appuyer la partie particularité du cours. Ils vont même être avec d'autres spécialistes, des intervenants pour les amener finalement à dire, ben OK, c'est beau, on veut donner des cours à des jeunes qui ont déficience intellectuelle. Ben comment on s'y prend? Donc, c'est pour ça qu'ils sont vraiment bien entourés pour construire le cours le plus adapté possible.
Et ces cours-là se donnent, est-ce que c'est sur la rue Saint-Denis, près de Saint-Joseph, ou dans ce coin-là?
Dans le coin du Berry-UQAM, là, dans ce coin-là.
OK, d'accord.
Donc, dans le centre-ville, là, c'est quand même très facile là, de se rendre. Et moi, j'ai participé à une classe, la classe Broadway, c'est pour les jeunes qui ont une trisomie et qui ont des déficiences intellectuelles.
Broadway,
Oui, Broadway.
Comme les comédies musicales.
Ah, oui, c'est ça exactement. Donc, c'est un cours qui est tout en couleurs. C'est de la danse finalement où est-ce qu'on va mixer l'improvisation. Il y a aussi une chorégraphie. Là. Ils vont montrer tout le temps comme une petite chorégraphie à chaque cours qu'ils vont reprendre, des petits mouvements. Mais il y a aussi tout le côté de laisser le jeune s'exprimer pour amener ce côté-là où est-ce que tranquillement ben il va développer son estime personnelle, il va sa confiance en lui parce que là ben il va inventer des mouvements.
Oui, c'est ça.
C'est un cours qui est vraiment, il y a des foulards, il y a plein d'accessoires créatifs pour les jeunes. Et cette classe-là, ben c'est ça, c'est que c'est vraiment comme un théâtre musical. Tu sais, ils ont vraiment développé ça, de cette façon-là.
Toi, tu y as participé à quel comme tu étais une simple participante, ou tu étais là pour t'informer ou quel était ton rôle?
Oui, non, c'est ça. J'ai participé. Ben en fait, c'est très drôle. J'ai participé comme je faisais un reportage à Annie Télé.
D'accord.
Donc, j'ai participé en formule que j'animais, mais comme j'ai un bagage en intervention,
exact.
Ben, je me suis retrouvée finalement à intervenir parce que il y a des jeunes avec qui c'était plus difficile et j'étais là. Donc, on a vu rapidement mon expertise parce que j'ai dû gérer un jeune en particulier là, qui était assez problématique. Là. Il avait pas envie de partir. Et comment ça fonctionne, ce cours-là? C'est que les parents ne sont pas là. Mm-hmm. Les parents déposent les enfants, mais les enfants, les adolescents, cette classe-là, c'est des adolescents, mais tous les cours de danse au ballet, au grand ballet, les parents ne sont pas dans les classes.
D'accord.
Fait que c'est ça qui fait que ça devient aussi un petit peu difficile, parce que les parents déposent les enfants, après ça, quittent, et tout ce qui se passe dans les cours, ben c'est les enseignants qui vont gérer ça. Les parents vont pas venir dans le cours pour aider, exemple, s'il y a un jeune qui boque ou...
C'est sûr que là, il y a comme une confrontation avec la nouveauté, là, puis moins de points de repère. Ouais.
Oui, ça, c'est sûr. Mais pour dire quand même que c'est des situations qui vont arriver, qui peuvent arriver dans le cours quand tout d'un coup, il y a un jeune qui veut pas partir ou qui est un petit peu fâché. Mais ça, c'est vraiment les enseignants qui vont gérer ça. Et comment ils font habituellement? Mais c'est parfait, tu ne peux pas participer, tu restes assis. C'est tout. T'sais, ils ne vont pas forcer le jeune à danser. Nice. Mais là, comme j'étais là, ils voyaient que j'étais assise à côté de lui, ben là, il est devenu insistant.
Oui, je comprends. Mais là, dans cette situation-là, tu as quand même vu au fil des mois comment des gens ont progressé, comment des jeunes ont changé dans cette situation-là.
Ah ben oui, totalement. Là, la jeune fille que j'ai accompagnée, elle se regardait dans le miroir.
Uh-huh.
Elle disait qu'elle était belle, là.
OK. C'est formidable parce que tu vois, c'est pas juste un cours qui fait ça, mais à force de revenir, puis ainsi de suite, ça change la vie du jeune.
Ah ben oui, complètement. Non, fait que c'est vraiment beau de voir ça, de voir ces jeunes-là qui prennent confiance. Et c'est le fait aussi qu'ils vont développer des habiletés parce que physiquement, dans leur corps, ils ont souvent des défis aussi.
Oui,
là.
Aussi.
Ben oui, donc le mouvement, c'est souvent des enfants qui vont un peu moins bouger. C'est plus difficile. Là. Et même les parents, c'est ça qu'ils expliquaient, essayer de trouver des cours qui sont accessibles pour des jeunes qui ont une déficience intellectuelle, trisomie, autisme. C'est les parents qui doivent faire les recherches.
Ce n'est pas évident, ça. C'est... Il n'y en a pas beaucoup. Puis,
il n'y en a pas beaucoup.
Ça marche au bouche à oreille, là.
Oui, oui, bien, c'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça que quand ils ont trouvé les grands ballets canadiens, bien, là, à ce moment-là, bien, là, ils ont vu leur fille qu'il y a plein de choses qui se sont, vraiment améliorées. Oui, épanouies au niveau, c'est ça, de son estime personnelle, mais vraiment au niveau de son corps, au niveau de ses défis qu'elle avait, parce que c'est ça, la jeune fille, elle avait aussi une maladie, là, la sclérose en plaques.
Ouais.
La paralysie cérébrale, je les mélange souvent les deux. C'est la paralysie cérébrale.
D'accord. Puis là, il peut y avoir des challenges en termes de motricité et de coordination, tout à fait.
C'est ça, exactement. Donc, à ce moment-là, dans le cours, bien, ça lui permet de travailler aussi sur ses limitations dans son corps. Bien, moi, j'avais rencontré une enseignante, les deux enseignantes, mais dont elle qui est ergothérapeute. Puis, elle a vraiment basé son cours en fonction de son fils, parce que son fils a lui-même une trisomie. Alors, c'est magnifique parce que l'enseignante est là, puis son garçon, il est là.
Mais là, c'est pour une fois, les parents sont admis parce que la mère est elle-même une des professeurs
qui a construit le cours, là.
D'accord.
En fait. C'est elle qui l'a développé. Mais c'est pour ça aussi que c'est vraiment beau, tu sais, de voir ces jeunes-là.
Pour s'inscrire, d'un point de vue pratico-pratique, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? À qui on s'adresse? Est-ce qu'on pitonne Grand Ballet canadien?
Oui, c'est ça. Dans le fond, sur le site des Grands Ballets canadiens, on va avoir la portion là, dans les onglets « Danse-thérapie ».
D'accord.
Là, c'est là qu'on va avoir tous les cours de danse qui sont accessibles, puis que dans le fond, ils ont vraiment rentré ça dans comme un programme, là, danse adaptée. Puis là, on va avoir toutes les formes de cours. Donc, pour les autistes, ils le nomment comme ça, là, mais c'est ça. Autisme 4-8 ans, il y a ballet autisme 9-17 ans. C'est vraiment écrit de cette façon-là.
D'accord, c'est segmenté. Oui.
C'est super facile pour les parents à ce moment-là de trouver, lequel cours est le plus adapté. Là. Puis en même temps, la danse, il y a vraiment quelque chose où est-ce que ça fait tellement du bien de danser, de bouger.
Ah oui, ça je suis d'accord avec toi. Oui, tout à fait.
Ouais,
moi, je danse, entre guillemets, n'importe comment. Mais j'aime ça. Alors, oui, moi, je laisse la musique couler dans mon corps, puis ça sort comme ça sort. Puis,
OK, mais c'est ça, mais c'est pas dans des cours. Là,
non, c'est pas dans des cours. C'est pas dans des cours, ça va être... c'est ça, le fait d'écouter de la musique, puis de laisser entraîner, puis de s'exprimer. On finit par perdre la peur que l'on a d'être jugé. À ce moment-là, ça se répercute dans d'autres facettes de notre vie aussi.
Ah, ben oui, complètement, parce que ça amène un sentiment de liberté, ça aide beaucoup au niveau des neurotransmetteurs, là, parce que là, on est dans quelque chose parce qu'on célèbre, c'est la joie, on se laisse aller, et à ce moment-là, mais ça fait tellement du bien, donc nos hormones là, sont en fête, là, à ce moment-là.
Là, c'est bien dit, ça. Ouais.
C'est super positif, donc moi, j'invite vraiment les gens à aller voir... Sur le site
des Grands Ballets canadiens. Merci beaucoup, Julie. Je pense que ça a été un début d'année rafraîchissant d'entendre ça. C'est bien d'avoir l'occasion de parler avec... En plus, tu as vécu une session de danse. Est-ce que tu as été plus qu'une fois ou juste une?
Non, je suis allée une fois.
Une fois, mais ça a été toute une fois.
Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, on a été privilégiés de rentrer là parce que même les parents ne rentrent pas.
Exact.
C'est ça que je veux dire.
Oui, tout à fait. Ben, bravo.
Pour pouvoir voir ça. Oui, vraiment.
Ah ben, on se reparle le mois prochain.
Parfait. Merci beaucoup, François.
Merci, Julie. À la prochaine.
OK. Bonne journée. Bye-bye. Thank you.
C'était John Beasley, un jazzman contemporain qui a gagné en fait un Grammy pour son travail et qui a même été en fait candidat plusieurs fois au Grammy. Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Marie-Andrée Pinchot-Mathieu. Bonjour, madame.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes coordonnatrice du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal.
Effectivement.
C'est long, mais ça dit bien ce que c'est.
Oui.
Voilà. Dans un article publié dans la presse au courant du mois d'août, sous la plume d'Henri Ouellette-Vézina, on lançait un cri d'alarme, comme quoi il y avait des organismes communautaires dans la région de Montréal, particulièrement entre autres à Hochelaga-Maisonneuve, qui étaient menacés d'expulsion. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, en fait, il y a une cinquantaine de groupes communautaires qui ont reçu des avis d'éviction, qui ont commencé là, pour le mois de juin passé jusqu'au printemps prochain. Et c'est dans vraiment beaucoup de quartiers de Montréal.
D'accord.
Là, effectivement.
Pas juste à Hochelaga-Maisonneuve, mais un peu partout sur l'île.
Exactement. Il y en a dans Onsic, il y en a dans Parc Extension, il y en a sur le plateau Mont-Royal, il y en a dans le sud-ouest, il y en a vraiment sur tout le territoire de la commission scolaire de Montréal.
Et ces organismes-là sont impliqués dans leur milieu propre de toutes sortes de façons. Là, on parle de quelle sorte d'aide qu'ils amènent à leur communauté.
C'est vraiment super varié. Le fait que oui, il y a des groupes en sécurité alimentaire qui ont des banques alimentaires, mais il y a aussi des groupes pour les aînés. Il y a des groupes familles, il y a des centres de femmes, il y a des maisons de jeunes, il y a des groupes en santé mentale, il y a des groupes pour les personnes handicapées, il y a des groupes en défense de droits, des comités logements. Donc, c'est vraiment très, très
C'est tout azimut, oui. OK.
Oui, oui. Donc, ils répondent à beaucoup de besoins de la population, puis ils sont des fois hébergés dans ces bâtiments-là depuis comme presque 50 ans. Là. Ça fait très, très longtemps qu'ils sont là, puis qu'ils sont très impliqués dans leur quartier.
Ben oui.
Même qu'il y a tout le tissu communautaire qui est construit autour de ces anciens bâtiments scolaires-là.
Et c'est là où vous dites le mot scolaire, et c'est ça qu'ils ont en commun. Ils ont le même propriétaire.
Exactement, parce qu'il y a beaucoup de groupes communautaires à Montréal ont des problèmes de logement. Oui. La crise du logement, ce n'est pas juste pour les locataires, là, les individus, mais les groupes communautaires vivent la même chose, c'est-à-dire que les loyers sont trop chers, les locaux sont mal adaptés, puis les groupes n'ont souvent pas les moyens de louer dans le marché privé ou de rénover leurs bâtiments, ou de les rendre accessibles pour les personnes handicapées. Donc, c'est vraiment très difficile, mais particulièrement, là, il y a 50 groupes qui sont logés par la Commission scolaire de Montréal, qui ont reçu des avis d'éviction, et puis qui ne savent pas qu'est-ce qui va se passer.
Ça, c'est le Centre de services scolaires de Montréal, ce qu'on appelait une commission scolaire avant, là, pour faire simple, qui est propriétaire de bâtiments qui ont déjà été des écoles ou... qui font partie de leur parc immobilier, mais depuis très longtemps, ces bâtiments-là, au lieu d'avoir une vocation scolaire, ont en partie une vocation communautaire.
Oui. Les bâtiments excédentaires. Dans les bâtiments excédentaires, il y en a beaucoup, en fait, que les bâtiments sont tellement vieux là, que c'est pas possible de les rendre aux normes pour en faire des écoles. Donc oui, en définitive, c'est le gouvernement du Québec, là, c'est les bâtiments publics, c'est le gouvernement du Québec qui sont propriétaires de ces édifices-là, mais ils sont gérés par la commission scolaire, donc la commission le centre de services scolaires. Donc, dans certains cas, il y a des reprises de locaux quand même pour des besoins scolaires. Ça arrive dans certains cas, mais des fois, c'est juste parce que les bâtiments sont trop vétustes, sont trop vieux, ils tombent en ruine, puis la commission le centre de services scolaires ne veut plus dépenser d'argent. Pour les rénover. Donc, ils disent, on met les groupes dehors, on barricade le bâtiment, puis après ça, on vend les bâtiments au public.
Vend des bâtiments à un entrepreneur qui va peut-être les transformer en condos, là,
ou
les jeter à terre. Ça, c'est une autre question, là. Mais,
c'est une question qui est très, très importante, parce qu'en fait, au-delà des groupes communautaires qui se font mettre dehors, on est aussi en train de perdre nos espaces publics.
Exact.
On dilapide notre patrimoine public en faisant ça. Puis les gens qui ont moins de revenus, qui sont plus défavorisés, qui sont plus marginalisés, ont de moins en moins d'espace dans l'espace public à Montréal. Là, parce qu'il n'y a plus de place pour eux pour avoir des logements, mais ils n'ont plus de place pour avoir leur lieu de socialisation non plus quand les groupes se font mettre dehors aussi.
Exact.
Les cafés, ça coûte trop cher. Tout coûte de plus en plus cher dans les quartiers. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme place là, pour les personnes défavorisées? C'est très inquiétant.
Parce que, en fait, la question, c'est toujours, ça vient malheureusement toujours à une question de dollars. Là.
Ouais.
Il faudrait consentir un budget qui, on s'en doute, serait important. Après des années de négligence, de mal entretien, que ces bâtiments-là ne sont pas aux normes, ben là, tout d'un coup, il faudrait les mettre aux normes ou trouver un d'autres locaux. Mais on ne peut pas juste mettre les gens dehors. C'est là que ça, c'est cruel.
Exactement. Il y a plein de solutions. On travaille sur les solutions depuis vraiment longtemps, là, parce que c'est pas une nouveauté. Là, c'est comme un gros coup de mettre 50 groupes dehors d'un coup. Mais ça fait une vingtaine d'années là, que le Centre de services scolaires a cette volonté-là. Ils s'en vont vers ça tranquillement. Donc, il y a plusieurs solutions sur lesquelles on travaille. On a un comité régional à Montréal avec plein d'acteurs, avec la ville, avec les CIUS, avec la coalition Montréal des tables de quartier, avec Défi Montréal, qui est un regroupement d'organismes pour personnes handicapées aussi, puis le RIOC. On travaille à trouver des solutions. Fait que oui, ça peut être pour les groupes de se relocaliser. Ça peut être d'acheter ou de développer un bâtiment communautaire qui pourrait être adjacent avec des logements sociaux. Ou que la ville récupère les bâtiments, ou que le gouvernement du Québec récupère les bâtiments, ou qu'on achète les bâtiments.
Oui, il y a beaucoup de solutions, mais est-ce que ça semble focaliser vers une alternative ou une autre, ou pour l'instant, tout le monde regarde, tout le monde est comme autour du... la personne blessée sur le sol en se demandant, en proposant des solutions, mais la personne sur le sol continue d'agoniser?
Bien, c'est ça. C'est toutes les solutions que les groupes mettent sur la table. En définitive, il va toujours y avoir besoin d'argent là, qu'on achète ou qu'on rénove, puis de l'argent qu'on n'a pas, les groupes communautaires. Là, on ne génère pas de profit. Là. Il faut que le gouvernement du Québec s'en mêle. Puis à court terme, ce qu'on demande, c'est un moratoire sur les évictions, là. Avant qu'on trouve des solutions, avant que le gouvernement du Québec s'implique puis apporte de l'aide financière aux différentes solutions qu'on a trouvées, il faudrait commencer par ne pas évincer.
Oui, et éviter qu'il y ait des organismes qui tout simplement ferment leurs portes parce que.
Exact.
Et littéralement mettre des usagers ou des personnes qui dépendent de ces groupes-là. Les mettre à la porte ou les mettre dans la rue?
Exactement.
Parce qu'on parle de besoins criants là, qui sont desservis par ces groupes.
Mm-hmm. Oui, puis c'est ça, c'est que ça fait la ministre Rouleau, Chantal Rouleau, elle est ministre de l'Action de la solidarité sociale et de l'action communautaire, donc la ministre responsable des groupes communautaires dans le gouvernement du Québec. On l'a rencontrée plusieurs fois, elle nous dit qu'elle est à la recherche de solutions, mais ces solutions-là, on les a pas, elles sont pas sur la table, on n'a pas de signe de par où ça s'en va. Fait que c'est super urgent, au moins, là, qu'on fasse un moratoire.
Qu'un moratoire.
Ouais.
Parce que si la situation de vétusté a été endurée pendant plusieurs années, qu'est-ce que 6 mois de plus?
Exactement.
Mais est-ce qu'il y a quand même un danger? Est-ce que ces édifices-là menacent de s'écrouler?
Pas tant.
Okay,
mais
pas
des
tant.
Fois, oui, des fois, non.
Oh, OK,
c'est
d'accord.
C'est pas clair. Mm-hmm. On n'a pas accès le centre scolaire fait faire des études tout le temps sur les bâtiments par des ingénieurs, par des filles, puis on n'a jamais accès. On a rarement accès à ces documents-là. Donc, des fois, ça arrive qu'ils débarquent dans un groupe et ils disent « ça va s'écrouler, fait que dans 3 mois, on vous met dehors, trouvez un autre endroit ». Puis finalement, on dit « ben non, on part pas ». Puis finalement, 15 ans plus tard, les groupes sont encore là, puis l'édifice s'est pas écroulé. Là.
D'accord.
Les écoles avec des enfants dedans sont aussi en mauvais état.
Les premières évictions sont prévues pour quelle date? 31 décembre ou demain?
Il y en a eu au mois de juin déjà.
Oh,
il y a des
d'accord.
groupes qui ont été évincés au mois de juin. Il y en a que c'est pour le mois de décembre. Il y en a que c'est pour le printemps. Mais c'est ça, c'est arrivé au mois de juin là, qu'il y a des groupes même qui ont eu des 3 mois là, pour s'en mettre dehors. Là, des 3 mois de préavis.
Est-ce qu'ils ont été capables de retomber sur leurs pattes ou...
Pas tellement. Bien, tu sais, ils ont des solutions très temporaires. Là. C'est
sûr
que dans 5 cas, les mobilisations ont réussi à un peu comme donner du temps là, à
convaincre
le centre de services scolaires. Là, on ferme 3 mois, ça n'a pas d'allure. Là. On donne un petit peu plus de délai. Mais il y a des groupes qui se sont relocalisés, mais dans des locaux trop chers. Donc, comme c'est plus cher, ils doivent couper des activités.
C'est ça, exactement. Ils vont aller en s'amenuisant. Ben, Madame Pinchot, Mathieu, merci. de nous aider à lancer ce cri d'alarme. Lâchez pas la ministre Rouleau. On espère trouver des solutions. Merci, on s'en reparle de ce dossier, certainement.
Oui, au plaisir. Merci beaucoup.
De l'autre côté de la pause, on parle piéton.
Avec François Beauregard.
De retour, il y a quelques semaines à peine, au mois d'août, le gouvernement du Québec annonçait une grande réforme, en fait un plan d'action autour de la sécurité routière. Le gouvernement du Québec veut adopter l'approche vision zéro, hein, comme quoi aucune mort n'est acceptable dans le réseau routier au Québec. Et en particulier celle des piétons, les personnes les plus vulnérables. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Madame. Vous êtes quasiment. Vous venez si souvent à notre émission et à chaque fois, ben, c'est toujours un plaisir renouvelé. Hein? On va dire ça de cette manière-là. Madame Sandrine Cabana de Gagny, directrice générale de Piétons Québec. Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, Monsieur Beauregard. C'est un plaisir partagé.
Ben, parce que j'ai l'impression que en terminant la saison dernière en juin, on s'était parlé avec une liste de ce que nous espérions voir tous dans les politiques québécoises en termes de sécurité routière. Et puis, les vœux semblent en partie exaucés.
Oui, tout à fait. On est content de voir ce bon pas dans la bonne direction. Il y a plusieurs éléments dont on avait parlé en juin dernier qui ont été mis dans ce plan d'action-là. Là, il reste à réaliser ces éléments-là. Donc, on va être très présents dans les prochaines étapes, que ce soit le projet de loi qui va participer à mettre en œuvre le plan d'action, mais aussi tous les chantiers, notamment le chantier de révision des normes d'aménagement pour mieux intégrer les besoins des piétons. Donc, tout le travail reste à faire, mais on est content de l'engagement qui a été mis de l'avant dans ce plan d'action-là.
Parce que, en fait, quand on parle de sécurité routière, il y a deux axes principaux. Il y a l'aménagement des lieux physiques. Est-ce que ce soit les carrefours, la largeur des boulevards ou les aménagements autour des zones piétonnières plus denses ou plus fragiles, comme entre autres les écoles? Puis il y a également l'attitude des usagers.
Vous avez tout à fait raison, mais il manque aussi l'axe des véhicules qui doivent eux aussi être sécuritaires.
D'accord.
Donc,
effectivement,
le plan d'action met beaucoup l'accent sur ces deux éléments-là qui sont majeur, l'aménagement de nos milieux de vie qui vont engendrer des comportements plus sécuritaires, qui vont favoriser des vitesses plus lentes, qui vont assurer la traversée de la rue sécuritaire pour les piétons, puis les comportements des usagers qui doivent bien sûr faire preuve de prudence et de vigilance là, envers les usagers, surtout les plus vulnérables qu'eux. Donc ça, ce sont deux facteurs très importants, mais on doit aussi s'assurer que les véhicules qui circulent sur nos routes sont sécuritaires et il y a quelques éléments dans le plan d'action qui touchent à ce sujet-là, notamment via les véhicules lourds, mais on n'a pas inclus de mesures visant à assurer la sécurité des véhicules de promenade, là. Donc les D'accord. véhicules que les gens conduisent, puis on le sait, les VUS, les camions
c'est le mot qui venait à l'esprit, là, les véhicules utilitaires sport, là, les gens qui ont un véhicule qui serait tout à fait à son aise dans un chemin de bois, mais qui en fait s'en servent uniquement dans le parking du centre d'achat.
Oui, on en a de plus en plus sur nos routes. En 2020, le segment des camions légers représentait 80% des ventes de véhicules neufs au Québec. Donc, c'est quand même majeur comme segment. Puis, on a de plus en plus de ces véhicules-là, justement, sur nos routes. Et on sait que en raison de leur taille plus grande, de leur hauteur plus élevée et de leur masse plus grande, ils ont des plus grands impacts sur les piétons, donc plus de risques de collision et
des collisions qui font plus mal encore.
Ouais, tout à fait.
Quand on parle de véhicules, on parle de camions légers, en anglais, on dit un pick-up. Hein? Puis je pense que les gens vont reconnaître de quoi il s'agit. Maintenant, les familles achètent essentiellement des camions comme véhicule familial.
Oui, tout à fait. Donc, on inclut là, justement les véhicules de type pick-up, les camionnettes qui sont plus familiales, puis les VUS. Donc, tout ça est inclus dans la catégorie.
On peut penser que le lobby automobile n'a pas été trop froissé par la mise de l'avant de cette politique, mais concentrons-nous sur le bon côté des choses, les aménagements des routes et l'attitude des usagers. L'aménagement des routes, ça revient souvent aux municipalités d'Ivoire.
Oui, tout à fait. C'est sûr que les municipalités ont un rôle important sur l'aménagement des rues au sein de leur territoire. Par contre, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a aussi un rôle à jouer parce que c'est le ministère qui détermine les normes d'aménagement. Et c'est là où le plan d'action va avoir un impact sur les piétons parce qu'on y prévoit de modifier les normes d'aménagement. C'est un peu technique, là, mais pour aider finalement les ingénieurs municipaux pour qu'ils puissent mieux aménager pour les piétons. Donc, on prévoit d'y inclure un chapitre piéton qui va permettre de mieux prendre en compte les besoins des piétons. Donc, par exemple, mettre de l'avant des solutions qui sont très bien connues, comme une largeur de trottoir qui est suffisante pour qu'on puisse y circuler en sécurité, des seuils trottoirs. Donc, tous ces aménagements-là qui permettent de créer des milieux de vie plus favorables à la marche.
Oui, tout à fait. Et ça peut vouloir dire aussi parfois la disposition de dos d'âne ou de bollard, hein, qui sont ces gros barils de ciment parfois qu'on voit là, garnis de fleurs dans les quartiers résidentiels ou des passages piétonniers avec des lumières, des choses qui sont très évidentes que l'automobiliste ne peut pas prétendre avoir manqué. Là. Ça fait partie des aménagements qu'on peut mettre de l'avant.
Tout à fait. Puis on pense aussi à toutes les notions pour bien intégrer l'accessibilité universelle aussi dans les aménagements. Donc, la présence de feux sonores, par exemple, ou la conception là, des trottoirs, des entrées, charters et tout ça qui va permettre à un cheminement qui est continu, qui est libre d'obstacles. Donc, tous ces éléments-là pourront être mis de l'avant là, dans les nouvelles normes d'aménagement.
Donc ces normes-là sont imposées par le ministère du Transport. Et il en vient aux municipalités de les appliquer. Là, évidemment, il y a une question de temps et de budget. Là, ils ne peuvent pas, en claquant des doigts, voir à ce que toutes les normes nouvelles soient appliquées sur leur territoire. Il y a encore loin de la coupe aux lèvres. On ne peut pas tout régler en une journée.
C'est certain, mais ce chantier-là, ce qui va permettre, c'est que une fois les normes modifiées, c'est que dorénavant, lorsqu'on refait une route, bien, on va se fier aux nouvelles normes. Donc, d'accord. On a quand même beaucoup de réaménagements. Nos rues qui sont en cours en ce moment au Québec, on a des infrastructures qui sont vieillissantes. Donc, l'important, c'est que quand on refait ces routes-là, on s'assure qu'elles prennent en compte les besoins de tous les usagers, dont ceux des piétons.
Chez Piéton Québec, entre autres, vous organisez des séances d'information destinées justement aux décideurs.
Oui, tout à fait. On a plusieurs activités là, pour outiller les acteurs, les décideurs, autant municipaux que locaux, donc en santé publique et tous les acteurs là, finalement qui ont un impact sur l'aménagement de nos milieux de vie. Donc, on a par exemple un sommet piéton qui s'en vient là,
les 16
et 17 octobre, oui. Donc, ça aura lieu à Drummondville, puis on va parler de toutes ces questions-là. Donc, oui, l'aspect de sécurité des piétons, puis tous les chantiers qui s'en viennent à ce sujet-là, mais également toutes les questions pour promouvoir la marche comme mode de déplacement, parce qu'on est tous piétons, mais parfois on l'oublie, puis on a un aménagement du territoire, justement, qui est très qui favorise les déplacements motorisés, puis on oublie que la marche a des bénéfices incroyables sur la santé des personnes, mais aussi sur le bien-être psychologique. Donc, c'est vraiment toutes ces questions-là qu'on va aborder lors du sommet.
Bon, ça, c'est les 16 et 17 octobre à Drummondville. Dans l'élaboration, pour revenir à la réforme, vraiment, qui a été annoncée, il va y avoir une table de concertation. Il faut qu'il y ait que tous les acteurs, les parties prenantes se rencontrent pour discuter des nouvelles normes et pour la mise en place. Est-ce que Piéton Québec va être là?
on espère être là. C'était une de nos demandes là, qui est la remise sur pied de la table d'action concertée en sécurité routière au Québec. Donc, on est très contents que ça ait été annoncé. La sécurité routière dépend de tellement d'acteurs au Québec. Donc, les municipalités, comme on en a parlé, le gouvernement du Québec via le ministère des Transports, mais aussi via le ministère de l'aménagement, le MAMAS, le ministère des Affaires municipales.
D'accord. Pardon.
Également le ministère de la Sécurité publique. Donc, on a aussi tous les services de police qui sont impliqués, qui ont un rôle très important en sécurité routière. Donc, tous ces acteurs-là doivent travailler ensemble pour atteindre les objectifs. Donc, c'est pour ça que la table de sécurité routière va être une instance très importante là, pour suivre la mise en œuvre du plan d'action, puis aussi proposer d'autres actions qui n'ont peut-être pas été réfléchies dans le cadre de ce plan d'action-là, mais qui vont être importantes pour atteindre nos cibles en matière de sécurité routière.
On a dit que dans ce qui manquait ou la partie qui avait été moins soulignée ou appuyée dans cette réforme-là, on n'a pas parlé beaucoup des vélos et des cyclistes.
C'est vrai. Il y a plusieurs éléments qui sont mis de l'avant dans le plan d'action qui concerne les usagers vulnérables de façon générale. Donc, c'est sûr que ça va permettre aussi d'avoir des gains pour les cyclistes à ce niveau-là. Par contre, ce qu'il faut remettre en perspective, c'est qu'on avait vraiment un grand rattrapage à faire pour les piétons.
Oui.
Donc, on a quand même eu beaucoup mis d'accent dans les dernières années sur la réforme qu'il y avait à faire pour mieux prendre en compte les cyclistes, puis c'était important de le faire. Mais on avait peut-être mis un peu plus de côté les besoins des piétons. Donc,
d'accord.
Par exemple, si on parle des normes d'aménagement, bien, il y a déjà un chapitre qui s'attarde aux voies cyclables. Il y a déjà un chapitre qui présente les besoins des cyclistes dans les normes d'aménagement, alors que ce n'est pas le cas pour les piétons.
Ah, voilà.
Donc, on avait vraiment un rattrapage qui était nécessaire à faire à ce niveau-là. Puis, on a travaillé dans le cadre des consultations là, pour le plan de sécurité routière avec Vélo Québec, par exemple, qui reconnaissait ce rattrapage nécessaire là, pour les piétons. Donc, eux, de leur côté, étaient quand même satisfaits que le plan se concentre là-dessus.
Bon, mais tant mieux, parce qu'on ne veut pas avoir une... Des fois, il y a des animosités entre piétons, cyclistes, cyclistes auto, là. Hein? Alors, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. J'ai entendu un commentaire qui était vraiment navrant suite au dépôt de la réforme en août. Il y a un commentateur sur la place publique qui a dit qu'en fait, le nombre de piétons tués n'avait pas vraiment augmenté, parce que comme le nombre de véhicules avait augmenté, mais finalement, en termes de proportion, il y avait autant de piétons, sinon moins, qui mouraient. Mais ça introduit la notion qu'un piéton qui meurt, c'est pas vraiment important, tant qu'on n'en tue pas trop.
Ouais.
Alors, ça, si on parle du changement d'attitude, là, ça fait partie de ça.
Oui, ouais. Tout à fait. Puis c'est vraiment ce qui change avec les visions zéro, c'est qu'on n'accepte plus que les morts sur la route, peu importe qu'ils soient piétons, automobilistes, cyclistes, fassent partie des règles du jeu.
Voilà.
On souhaite que ce message-là percole dans la société, puis que finalement l'adoption par le gouvernement du Québec de l'approche vision zéro soit adoptée par l'ensemble de la société. Je pense qu'il y a encore des gens qui sont dans l'approche traditionnelle en sécurité routière où on se dit s'il n'y en a pas tant que ça, c'est pas grave.
Oui, c'est ça. C'est... Oui, voilà.
Mais ce qu'on peut demander aux gens, c'est combien de vos proches vous accepteriez de perdre sur la route.
Tout à fait.
C'est toujours ça, la question. On voit des statistiques, mais il y a des drames humains qui se passent derrière ça.
Exact. Et des gens qui... Il y a les décès, c'est une chose, mais il y a beaucoup de gens qui perdent une partie de leur vie aussi, qui sortent d'accidents ou de collisions entre différents acteurs routiers. Ils sont toujours vivants, mais leur vie vient de basculer parce qu'ils se retrouvent aux prises avec des problèmes handicapants pour le reste de leur jour. Madame Degani, je vous remercie beaucoup d'avoir été là encore une fois. C'est sûr que on dit « the devil is in the detail ». Alors, la réforme est une très belle chose, et on se réjouit de la volonté du gouvernement d'aller de l'avant de ce côté-là. Alors, il va falloir suivre, évidemment, le dossier de près pour voir comment il sera appliqué.
Tout à fait, mais c'est un bon pas dans la bonne direction, donc on va suivre ça.
Excellent. Merci, à bientôt.
Merci, au revoir.
Merci. De retour après Cannonball Adderley. L'aphasie est une maladie, est une situation tragique. On est incapable d'utiliser la parole, souvent après un accident cérébrovasculaire ou d'autres problèmes de santé. Et il y a quelques semaines, des chercheurs aux États-Unis annonçaient un pas énorme dans le traitement de l'aphasie. Et pour nous aider à comprendre tout ça, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie le professeur Étienne de Villers-Sidani. Bonjour.
Bonjour, M. Beauregard.
Vous êtes professeur agrégé au département de neurologie en neurochirurgie de l'Institut de l'Hôpital neurologique de Montréal, qui est un institut relié à l'Université McGill.
Oui, c'est exact. Merci de m'avoir invité à votre émission.
Ben, ça me fait plaisir. Simplement pour mettre le décor, qu'est-ce que l'aphasie?
En fait, l'aphasie, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, c'est cette incapacité qu'on a à pouvoir s'exprimer par la parole. Peut-être qu'on veut le faire par la parole. Évidemment, on peut aussi écrire pour s'exprimer. Mais dans le cas de ces deux découvertes-là, c'est vraiment pour pouvoir s'exprimer en parlant, en fait, pour pouvoir être entendu. L'aphasie, c'est il y a des régions du cerveau qui sont impliquées dans coordonner tous les muscles qu'on a besoin de coordonner pour pouvoir dire ce qu'on veut dire. Et quand on y pense, pour pouvoir s'exprimer, ben, il faut pouvoir bouger un muscle.
Oui.
Il n'y a pas d'autre façon de le faire, en fait. Et ces aires-là dans le cerveau, ces régions-là du cerveau qui sont impliquées dans cette coordination complexe des muscles de la parole peuvent être affectées par diverses maladies, incluant des AVC, des accidents vasculocérébraux, des maladies dégénératives comme la sclérose latérale amyotrophique, par exemple, ou d'autres maladies qui affectent les parties du cerveau.
Et des personnes qui avaient la parole, bien, la perdent soit petit à petit ou souvent de façon très brusque, là, quand on parle des accidents cérébrovasculaires. Et jusqu'à maintenant, bien, c'était difficile de voir comment rétablir le lien entre la volonté de parler et je dirais, la capacité d'agir sur toute la mécanique.
Oui, c'est exactement ça, en fait, parce que je crois que ces deux articles-là qui sont sortis, en fait, en tandem, les deux de la région de San Francisco,
oui,
vraiment s'adressent un peu plus à des personnes qui, dans leur cerveau, savent exactement ce qu'ils veulent dire, qui peuvent aussi comprendre ce que les autres peuvent dire, ce qui n'est pas toujours le cas avec les aphasiques. Dans certains cas, quand toutes les aires cérébrales impliquées dans la parole sont affectées, on ne peut même pas comprendre ce que les autres veulent dire, puis on ne peut même pas trouver les mots,
oui,
pour les décrire.
Mais là c'est que le dictionnaire du langage est absent. Ça, c'est un autre stade.
Ça ne fonctionnerait pas dans un cas comme ça. Mais dans ces cas-ci, ils ont développé des nouvelles technologies, en fait, pour pouvoir aider des patients qui encore étaient capables de réfléchir aux mots qu'ils voulaient dire, mais qui n'étaient pas capables de les articuler, de les prononcer, de rétablir ce lien-là, comme vous l'avez dit, entre le cerveau et finalement, ben, pas les muscles dans ce cas-ci, mais une interface, une machine, un ordinateur qui parlerait à leur place.
D'accord. En fait. Ben, parce que les recherches à la fois menées à l'Université de Californie à San Francisco et à Stanford, qui est, je dirais, en banlieue dans le sens large de San Francisco, c'était mené en parallèle et ils sont arrivés à peu près au même résultat.
Oui, en fait, c'est des groupes qui se connaissent. En fait, j'ai moi-même étudié à l'Université de la Californie. À San Francisco, je connais un des auteurs de Dr. Edward Chang, que je connais quand même assez bien au département de neurochirurgie là-bas. Et les deux ont eu une approche un peu différente. Dans un cas, à l'Université de Stanford, ils ont implanté une grille de microélectrodes qui s'implante directement dans le cerveau, qui rentre dans le cerveau pour aller enregistrer les neurones des régions du cerveau impliquées dans la génération de la parole. Et dans l'autre cas, ils ont placé une petite grille en surface. Donc, ce n'est pas vraiment des électrodes qui rentrent, c'est vraiment plus des petits contacts qui peuvent percevoir.
Sur le cuir chevelu, oui.
Mais non, en fait, c'est directement sur le cerveau. Donc, c'est quand même quelque chose d'invasif.
D'accord.
Et il faut ouvrir le crâne, il faut aller exposer le cerveau. Et dans les deux cas, c'est la même chose. Donc, c'est pas quelque chose de qu'on peut installer à la maison.
n'essayez pas.
Non, c'est
voilà.
Ça. Et donc, dans les deux cas, par contre, c'est des centaines, des milliers de neurones sur le cerveau qui sont enregistrés en simultané et qui sont décodés avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour qu'un ordinateur puisse s'imaginer, prédire, si on veut, qu'est-ce que la personne veut dire.
D'accord. Ça doit demander un certain entraînement, que la personne puisse d'abord formuler dans son esprit le désir de dire, par exemple, « je me lève » ou « je m'assois » ou « me voici à table » ou « j'ouvre la porte » ou quelque chose comme ça. Puis là, à ce moment-là, l'intelligence artificielle va apprendre quel est le chemin parcouru par la parole qui est souhaitée.
Oui, en fait, vous avez raison, ça demande un entraînement. Dans les deux cas, on parle d'au moins 30 sessions d'entraînement. Ce qui est un petit peu magique, c'est que chaque personne, quand on apprend à parler, quand on est jeune, eh bien, on se bâtit des modèles de comment on veut dire les choses dans notre tête. Puis ça peut être différent d'une personne à l'autre. Il y a des recoupements, mais c'est pas toujours la même chose. C'est pour ça que ça prend un certain entraînement pour que l'ordinateur puisse, les algorithmes d'intelligence artificielle puissent comprendre quand cette personne-là veut dire telle chose, ça a l'air de quoi l'activité dans le cerveau? D'accord. Donc, cet entraînement-là sert finalement à faire comprendre à l'ordinateur que quand quelqu'un veut dire chien, ben, ça a l'air de ça, l'activité du cerveau dans le cerveau de cette personne-là, parce que ça pourrait être différent chez quelqu'un d'autre,
oui, qui pourrait dire le même mot pour le même concept, le même symbole, le même objet. Un chien, c'est un chien. Mais peut-être est-ce qu'on a appris les connexions neurologiques dans le cerveau qu'ils sont formées quand on était enfant, se sont formées un petit peu différemment d'une personne à l'autre, peut-être dépendamment de la taille du chien ou du sentiment de frayeur ou du caractère rassurant de l'animal. Mais je comprends donc qu'il faut d'abord éduquer ou peupler les données de l'intelligence artificielle qui va apprendre à reconnaître notre volonté.
C'est ça. En fait, une des avancées dans ces découvertes-là, c'est que ce groupe-là avait créé un système un peu similaire, mais vraiment très, très rudimentaire, il y a déjà 3 ou 4 ans, qui prenait un entraînement de 6 mois et qui permettait de dire seulement vraiment quelques mots, une dizaine de mots. Mais là, on parle de la capacité de prédire ce que la personne veut dire avec une assez grande fiabilité, en fait, au-delà de 90% de précision quand on a un lexique de 50 mots, mais ils ont même utilisé aussi un lexique de 100 000 mots avec une efficacité autour de 75%, ce qui n'est pas parfait.
100 000 mots, quand on sait que la plupart des gens ont un vocabulaire qui s'arrête plutôt autour de 250, c'est pas mauvais.
Oh, ben là, quand même. Mais oui, vous avez raison. Je pense qu'avec ces grands lexiques-là, on peut dire tout ce qu'on a envie
exact,
de dire.
Tout à fait.
Et c'est un petit peu ça, c'est l'idée, en fait. Ils voulaient démontrer. C'est vraiment des preuves de concept. Parce qu'on s'entend avec c'est très invasif, ça prend une chirurgie. Il y a quand même un aspect d'entraînement. Ce n'est pas un produit qui existe, là, qu'on peut. Le commun des mortels avec l'aphasie ne peut pas avoir cette procédure-là encore, mais à la vitesse où ça avance, ces preuves de concept-là nous montrent que c'est tout à fait possible. Et ça va continuer de s'améliorer rapidement dans les prochaines années, selon moi.
Donc, il s'agira évidemment de trouver des façons moins invasives, d'explorer le cerveau et de le relier à une machine d'intelligence artificielle qui pourra comprendre notre désir. Mais c'est proprement extraordinaire d'être capable. Je me souviens, il y a quelques années, on parlait de gens qui étaient dans un coma, qui étaient incapables de bouger, mais qui étaient conscients, qui étaient capables de dire le mot « oui » ou le mot « non » en imaginant qu'ils faisaient un mouvement du bras ou de la jambe ou quelque chose comme ça. Puis à ce moment-là, ben, ça indiquait une forme de patron neurologique spécifique que les gens pouvaient contrôler, même s'ils étaient en fait totalement paralysés. Mais là, on est beaucoup plus loin. Là, on parle de concepts et de mots qui peuvent ne pas être aussi simples.
Mais je crois que c'est un bon point parce que, dans le fond, vous parlez un petit peu de la situation de syndrome d'emprisonnement, ou c'est comme en anglais, on dit « locked-in syndrome ». En fait, c'est toutes ces situations-là qui font qu'on ne peut pas bouger les muscles comme on voudrait. Et comme vous l'avez dit, c'est pas juste des maladies dégénératives ou même des AVC, des gens qui peuvent être intubés ou aux soins intensifs, ils peuvent se retrouver dans une situation comme ça aussi. Et l'autre point que vous amenez est intéressant parce que le cerveau est extrêmement plastique. En fait, il est capable d'apprendre, de faire des nouvelles connexions, il est capable d'interagir avec ces interfaces-là aussi. Et je crois que c'est possible aussi que dans ces situations-là, dans ces deux articles-là, ces deux patients-là qui ont été implantés, bien, ces patients-là ont appris à utiliser aussi cette interface-là pour optimiser sa capacité à capter
tout à fait.
Ce qu'il voulait dire, en fait, parce qu'ils reçoivent de la rétroaction au
et
fur et à mesure qu'ils
tout à fait, oui, parce qu'il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui capte et comprend ce que le cerveau veut dire, mais le cerveau lui-même peut, et comme vous parlez, étant plastique, il peut s'adapter à comment dire plus clairement une chose et de voir que le taux de réussite augmente. Ben, Monsieur Devilliers-Sidani, merci beaucoup. Ce sont des avancées qui vont changer la vie des gens dans pas trop longtemps, dans quelques années, nous l'espérons. Merci.
Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité.
Avec François Beauregard.
De retour, il est maintenant 13h et 13h, bien c'est la revue de presse et nous avons le plaisir d'accueillir cette saison notre recrue de l'année, Élisane Pellerin. Bonjour Élisane.
Bonjour.
Parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce qui vous amène ici?
Je suis professeure en sciences politiques, donc j'ai un doctorat en sciences politiques internationales de l'UQAM. Je suis donc chargée de cours et je suis aussi donc une personne qui fait de la recherche puisque ça vient avec le doctorat et je suis maintenant nouvellement chroniqueuse.
Ah ben bravo. Et en sciences politiques, quels aspects du monde vous intéressent davantage? La coopération internationale, la géopolitique?
Je travaille en coopération internationale et en migration. Je travaille aussi sur le racisme. C'est surtout sur ça que je porte mes recherches.
Ben ça, c'est trois sujets qui sont, qui sont tous les jours dans l'actualité.
Oui, voyons, je ne manque pas de travail ces jours-ci.
D'une façon ou d'une autre. De façon anecdotique, j'ai fait mon cours en sciences politiques à l'université, mais vous n'étiez pas de ce monde encore. Voilà. On revient aujourd'hui. On va faire le tour du monde ensemble. On parle d'abord de l'Union européenne.
Oui, l'Union européenne qui a un projet pilote qui est dans 8 pays en ce moment, dont en Belgique. Un projet pilote pour une carte attestant du handicap qui serait une carte donc qui est valide dans tous les pays de l'Union européenne. Cette carte-là offrirait donc des conditions spéciales pour une meilleure égalité, un traitement préférentiel ou un accès gratuit ou prioritaire à des tarifs réduits ou à des assistants quand on a besoin d'assistants à cause d'un handicap. Donc, ce qui est spécial avec cette carte-là, c'est qu'avant, les pays avaient chacun leur carte.
Oui, chacun leur système. Ouais. Puis
chacun leur système. Et quand on voyageait donc dans les pays de l'Union européenne, c'était difficile. Ça pouvait devenir difficile pour des personnes en situation de handicap de faire valider leur handicap et de prouver leur handicap parce que leurs documents n'étaient pas acceptés dans le pays d'à côté.
Puis souvent, le handicap aussi peut être invisible.
Oui.
Alors, ça peut déjà créer une autre barrière. Les personnes qui nous accueillent à la frontière, au musée, à l'hôtel, à la gare, ils comprennent pas ce qui nous arrive. Alors, cette carte-là va être en fait une identification pour toute l'Europe.
Oui.
Du handicap. Et on espère vous ouvrir les mêmes portes partout, hein? C'est ça qui se
fait souhaiter. C'est ce qu'on essaie de faire, en fait. Donc, pour l'instant, ce n'est seulement qu'un projet pilote, comme je le disais, donc dans 8 pays. Mais si ça fonctionne bien, on espère, donc, du côté de l'Union européenne, de rendre ça plus universel pour que les personnes en situation de handicap, qu'elles soient visibles ou non, aient une meilleure chance au niveau de l'égalité, puis un meilleur accès universel aux lieux touristiques et aux autres lieux des pays dans lesquels ils voyagent.
En fouillant un peu plus, on s'aperçoit que cette proposition-là auprès de la Commission européenne, c'est pas d'hier, parce que ça fait déjà 13 ans que le Forum européen des personnes handicapées avait déjà commencé à demander une telle intégration au Parlement. Alors, ça prend 13 ans, c'est long.
Oui, ben écoute, c'était pas prioritaire, là, malheureusement, là, pour l'Union européenne qui a des dossiers très chauds à gérer. C'est quand même un long combat donc qui commence à porter fruit parce que pour les personnes en situation de handicap, effectivement, là, au jour le jour, au quotidien, ça peut devenir difficile de voyager entre les pays alors que leurs documents ne sont pas acceptés d'un pays à l'autre.
Exact. Le Forum européen des personnes handicapées, à fin de référence, là, C'est un organisme européen, justement, qui est relié à la structure pan-européenne, qui rassemble plus de 100 organisations et près de 80 millions de personnes en Europe. En fait, c'est la plus importante voix ou représentation des personnes en situation de handicap en Europe, là. Hein? Et leur slogan, c'est « Rien à notre sujet sans nous ». Voilà, alors ça veut dire « Consultons en amont ». Hein? Alors, ben, on espère avoir des nouvelles, de voir comment cette... Et on peut dire que chez nous aussi, en fait, il y a toutes sortes de petites cartes qu'on peut présenter.
Oui, mais on n'a pas la carte, effectivement, qui est universelle.
Exact.
On a toutes sortes de documents médicaux, non médicaux. Dans certains cas, ça devient difficile. Donc, effectivement, c'est un projet duquel on pourrait s'inspirer ici.
Oui. Comme moi, j'ai ma carte INCA, mais des fois, les gens regardent ça un peu de travers en se demandant ça vient d'où, est-ce qu'il a fait ça chez lui, comme ça.
Oui, voilà. Ouais, oui.
Voilà, ou je ne sais pas, dans d'autres situations d'handicap, on n'a pas nécessairement...
On n'a pas de carte. Moi, j'ai ma carte de Mira, bien sûr, pour mon chien d'assistance. Mm-hmm. Mais je n'ai pas de carte qui prouve mon handicap à moi. Mm-hmm. Et les personnes autistes ou les personnes avec une déficience intellectuelle n'ont pas non plus de carte pour prouver. Donc, si tu as besoin de services, tu te fies à la bonne volonté de la personne devant toi.
Ouais.
Et parfois, ces personnes-là ont peu de connaissances. Donc, ça peut effectivement mener à des discriminations importantes.
Ouais. Ou à des erreurs tragiques. En parlant de discrimination ou d'erreur ou d'exclusion, c'est le retour en classe en France.
Oui, c'est le retour en classe en France et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap là, qui n'ont pas accès à l'école, même si par la loi, tous les enfants devraient être scolarisés. Par contre, en France, il y a beaucoup d'élèves qui ont des besoins particuliers qui n'ont pas accès à des classes par manque de personnel. Et par manque d'adaptation des locaux aux besoins spéciaux des enfants. Donc, il y a quand même énormément d'enfants qui ne sont pas scolarisés à l'heure actuelle, même si les classes ont commencé depuis plusieurs jours en France.
Mais on peut supposer que si les classes ont recommencé puis ils ne sont pas scolarisés maintenant, c'était la même affaire l'an dernier. Alors, donc, à chaque année, il y a un déficit de scolarisation qui, pour le même enfant, évidemment, ben là, ça fait boule de neige puis ça crée des retards énormes qui vont être difficiles à rattraper. L'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, hein, c'est le nom de l'organisme, l'UNAPI, qui regroupe près de 900 personnes en France, 330 associations un peu partout en France. On fait une étude, de fait, qui auprès de 2100 enfants pour voir un peu quel était le taux de scolarisation ou leur participation à l'école et ça a donné des résultats qui étaient navrants.
Oui, on parle donc dans 6 régions de France. Résultat, 23 % de ces enfants, donc c'est énorme, qui n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. Donc, près du quart qui n'ont pas capables du tout d'atteindre l'école. Et donc, quand on parle de non-scolarisation, effectivement, on parle aussi d'aucun accès à la matière scolaire, sauf selon la bonne volonté et la capacité des parents qui souvent ont des emplois à temps plein, hein, mais qui doivent quand même essayer de gérer les enfants qui restent à la maison. Donc, on parle quand même de 23 %. On parle de 28 % qui auraient 6 heures ou moins et 22 % qui auraient de 6 à 12 heures par semaine. Donc, c'est quand même énorme. On parle d'une grande majorité qui ne sont pas du tout, même pas à 50 % des heures normales de scolarisation en France. Et on est en 2023.
Oui. Tout à fait, oui. Il y a encore beaucoup de rattrapage à faire. Le ministère français responsable des situations des personnes en situation de handicap nous indique que quand même le taux d'enfants ayant accès à l'école a augmenté, bravo, au cours des dernières années, là, de presque 34 % sur 6 ans. Mais et à la Conférence nationale du handicap, dont on avait parlé ici d'ailleurs en ondes, le gouvernement Macron s'était engagé, je dirais, à implanter une centaine d'instituts médicaux éducatifs au sein des écoles, c'est comme un pas dans la bonne direction, mais ces chiffres-là que vous venez de mentionner, ça fait peur. Il y a encore beaucoup de place.
On parle de projet pilote, effectivement, là, pour mettre des institutions médicaux éducatifs au sein des écoles. Par contre, on n'a pas vraiment, outre la bonne volonté du gouvernement, comme vous en parliez, François, on n'a pas vraiment d'idée au niveau des financements de ça,
exact.
Au niveau de la façon dont ça va fonctionner. Donc, pour l'instant, c'est un beau projet, on en parle, mais on n'a rien de concret. Et comme je le disais tout à l'heure, quand même, une grande majorité oui. d'enfants en situation de handicap en France qui ont des difficultés à entrer à l'école.
Et on parle des trois quarts là, qui sont en bas de 12 heures de scolarisation par
an. À tout le moins dans l'étude là, de 2100 enfants, mais on peut croire que cet échantillon donc est représentatif. C'est un problème qui se retrouve un peu partout en France. Là.
Tout à fait. Traversons les Alpes, hein, mais et allons en Suisse.
Allons en Suisse. On parle d'une bataille judiciaire pour faire reconnaître la vulnérabilité des aînés face au changement climatique. Donc, il y a un groupe d'aînés qui ont pris en charge cette bataille-là parce que, justement, ils trouvaient que les politiques gouvernementales étaient trop peu adéquates pour la gestion des GES, donc des gaz à effet de serre, et demandent au gouvernement de Suisse de revoir ses cibles, à la hausse, pour être capable de réduire plus drastiquement les GES et de reconnaître aussi la vulnérabilité des personnes aînées face au changement climatique. Donc, c'est un groupe de personnes âgées qui ont décidé donc d'aller en cours pour faire entendre leur mécontentement et faire entendre leurs préoccupations par rapport à ça.
Parce que c'est vrai que quand on voit des annonces suite à des vagues de chaleur, je pense, il y a quelques années, entre autres en France, ou dans les résidences pour personnes âgées, il n'y avait pas de climatisation. Les gens mouraient là, par centaines, par milliers. Les femmes sont plus encore vulnérables que les hommes aux excès de chaleur et des choses comme celle-là. Alors, de voir des groupes de femmes suisses qui se lèvent, se font entendre et s'expriment là-dessus, c'est une excellente chose et ça demande beaucoup de volonté parce que souvent, les personnes âgées, d'autant plus si elles sont femmes, sont regardées de haut un peu sur la scène politique. Bravo.
Et ces femmes-là se sont quand même rendues à la Cour européenne des droits de l'homme et on devrait avoir un jugement de cette Cour d'ici la fin de l'année. Donc, elles ont quand même pris des dispositions importantes pour se faire entendre.
Exact. Puis ça peut, à ce moment-là, créer une obligation.
Mais ça créerait un précédent, en fait. Donc, effectivement, une obligation du gouvernement d'agir et également un précédent qui aiderait d'autres personnes qui veulent faire entendre sur des sujets qui sont... De la même portée, dans les mêmes dossiers, dans le même type de demande.
Exactement. Alors, on va suivre ça de près parce que c'est sûr qu'on se fait une idée pittoresque de la Suisse, mais il n'en demeure pas moins que le réchauffement de la planète, c'est vrai là-bas aussi.
Oui, et c'est encore plus vrai en Europe. L'Europe se réchaufferait deux fois plus vite que le reste du monde.
Que le reste de la Terre, que le reste de la planète. Oui, tout à fait. Alors, tout à fait. D'à propos, disons ça. On revient de ce côté-ci de l'Atlantique brièvement à l'Université Johns Hopkins au Maryland.
Oui, en fait, où il y a une étude qui dure depuis une dizaine d'années qui a montré que la perte auditive contribue au déclin cognitif et au risque de démence. Et donc, ce qu'on peut faire pour pallier à ça, c'est des interventions pour avoir des appareils auditifs et des services d'assistance auditifs. Si les appareils auditifs et les services d'assistance donc, réduiraient le risque de démence sur les personnes âgées. Donc, c'est un professeur de médecine gériatrique qui a fait cette découverte-là. Donc, effectivement, suivi des patients là, sur une dizaine d'années.
Il s'est
rendu compte qu'effectivement, ceux qui avaient de l'aide auditive, donc à des appareils auditifs, entre autres, développaient moins de démence que les autres. Et donc, on pense croire qu'il y a un lien entre les deux. Comme je le disais, c'est une étude, donc il va falloir creuser, mais ça montrerait donc qu'effectivement, le manque d'ouïe et les problèmes auditifs créeraient un précédent pour la démence, ce qui s'explique entre autres par le fait que les personnes en perte auditive ont moins de contacts sociaux, évidemment, parce qu'ils entendent
l'isolement.
Moins, ils ont plus d'isolement, ils ont donc moins de stimuli autour d'eux, et c'est ce qui favoriserait donc un début de la démence ou à tout moins des pertes cognitives.
Des conditions favorables
à la perte de capacité cognitive.
Exact, tout à fait. Alors, évidemment, c'est une étude qui est sur un groupe de 977 patients âgés en moyenne de 76 ans, mais c'est quand même sur une période de 10 ans. Alors, c'est quand même un suivi qui...
C'est un suivi serré et qui donne des résultats donc qui sont quand même je ne sais pas si je dois dire encourageant.
Oui, mais c'est probable.
À leur façon, d'ailleurs, il va falloir, bien sûr, continuer à suivre ça, mais il y aurait un lien, donc, entre la perte auditive et la démence. Et donc, si on reconnaît ce lien-là et qu'on est capable de l'expliquer, de le comprendre, on pourra mettre en place différents dispositifs, différentes stratégies pour réduire la démence de ces gens-là et pouvoir prévenir la démence chez les personnes âgées.
Oui, parce que la population vivant plus longtemps, les questions de démence, Alzheimer ou autre, là, ben, ça devient un sujet de santé publique là, qui est vital. Hein,
oui, parce qu'effectivement, ça coûte cher au niveau du gouvernement. C'est très lourd aussi pour les aidants naturels. Oui. Et quand on n'a pas d'endroit où pour aider ces gens-là, quand on n'a pas assez de services, ben, effectivement, ça devient un problème de santé publique. Donc, si on peut pallier à ça et le voir venir plus facilement, ben, on pourra trouver des solutions pour être capable donc de limiter la démence. Et pertes cognitives, et à ce moment-là, être capable d'avoir des meilleurs services pour ces gens-là.
On va parler un peu de 2024, hein, dans une perspective sportive. Voici le coin des sportifs. À Paris, il va y avoir les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. C'est comme presque dans 362 jours d'ici.
Oui.
Exact. Alors là, il y a une question de préparation de toutes les installations et la logistique pour que ce soit des jeux accessibles.
Oui, d'abord parce que les jeux, donc, on retrouve les spectateurs alors qu'à Tokyo et à Pékin, aux derniers Jeux paralympiques et olympiques, il n'y avait plus de spectateurs étant donné la COVID-19. Ouais. Et on retrouve l'accessibilité, donc, des lieux aux spectateurs, ce qui demande aussi donc une accessibilité qui est universelle pour les personnes en situation de handicap qui voudraient vivre les jeux de l'intérieur. Donc là, il y a des personnes qui se sentent un peu inquiets, entre autres l'association AFP France Handicap, qui de leur côté ont disent que non seulement les lieux doivent être adaptés, ce que le comité olympique a réitéré, donc que les lieux seraient 100% adaptés pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à tous les lieux. Par contre, l'association donc France Handicap parle aussi qu'il va falloir mettre l'accent sur les questions d'accessibilité des transports publics, donc entre autres l'avion. Parce que les gens qui veulent se déplacer pour Paris pour aller voir les Jeux olympiques, c'est bien beau d'avoir des sites qui sont accessible. 100% accessibles et adaptés. Encore faut-il être capable de se rendre.
Oui, c'est beau que le stade soit adapté ou que le lieu de compétition soit adapté, mais si on n'est pas capable...
Si on reste pris dans l'aéroport, on n'est pas plus avancé.
Oui, voilà, exact. Puis c'est parce que ça oblige toute une réflexion sur l'accessibilité en allant en amont.
Oui, à grande échelle.
Si le stade est adapté, c'est super. Mais si on ne peut pas se rendre au stade, si on ne peut pas se rendre dans la ville...
Et avoir accès donc aux hôtels, aux restaurants et à tout le reste.
Voilà, parce que c'est toute une machine touristique. Là. On est certain que les athlètes paralympiques auront droit à une accessibilité universelle. Mais qu'est-ce qui arrive avec le commun des mortels qui veut simplement assister à une compétition? Puis là, l'organisation promet que tout sera en place, mais on sait ce que c'est à un an des Jeux olympiques, là, tout d'un coup, temps presse, puis il y a peut-être des coins qui vont être un peu ronds.
AFP France Handicap là, évoque de graves dysfonctionnements quant à l'accueil et à la prise en charge des voyageurs, entre autres dans les aéroports, et la prise en charge d'appareils d'aide à la mobilité, comme les fauteuils roulants. On pense que ça serait difficilement accessible, même si, comme vous le disiez, François, c'était beaucoup plus facile, donc, je vais reprendre la phrase. Donc, même si le comité olympique dit qu'effectivement, ça va être travaillé à un an des Jeux olympiques, en ce moment, ça devient très difficile. On n'y est pas encore. Voilà.
Ben, on va faire une pause musicale, puis on va revenir tout de suite après pour notre partie Québec/Canada. Puis on va parler justement d'aviation et de fauteuils.
Oui!
Thank you.
Vince Guaraldi qui nous interprétait Ginza Samba. Voilà. Vous connaissez peut-être Vince Guaraldi parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes les pièces de piano reliées au dessin animé Peanuts, Charlie Brown, qu'on a vu plein de fois à la télévision quand on était plus jeune. Voilà. Revenons au Canada, mais on revient en avion, si vous voulez bien, Lisanne, parce que là aussi, il y a une nouvelle toute fraîche.
Oui, on revient en avion parce que Tim Rose, qui est un Torontois, a gagné sa cause contre... Air Canada, oui. À l'Office des transports du Québec, il avait fait une plainte car son fauteuil roulant et avait été refusé dans un avion d'Air Canada parce qu'il était surdimensionné. Okay. Donc, Air Canada avait refusé d'embarquer le fauteuil roulant qui était fait sur mesure pour les besoins de M. Rose. Donc, à ce moment-là, M. Rose, qui s'en allait à Kevin, a dû faire le chemin en voiture parce que Air Canada a refusé d'embarquer son appareil, donc son fauteuil roulant, à l'intérieur de l'avion. On parle quand même d'un chemin qui fait un peu plus de 5 heures de route.
Oui, tout à fait. En parlant de 5 heures de route, il faut aussi parler qu'il s'agit d'un combat de 7 ans pour voir à ce que ses doigts soient reconnus.
Oui,
c'est un chemin encore plus long.
Ça a été très long pour M. Rose, effectivement, parce que forcément, l'Office des transports du Canada et tout ce qui a entouré ça, ça a été des batailles judiciaires qui ont été très longues. Et il faut, à ce moment-là, qu'un juge se penche sur la question de jusqu'à quel point une compagnie d'aviation donc est responsable d'offrir des aménagements à des personnes en situation de handicap, malgré donc ses propres normes à elle au niveau de ses avions et pour toute la question de la sécurité aussi des passagers et de l'équipement. Donc, ce que l'Office des transports du Canada a dit, c'est qu'au final, la compagnie aérienne se doit de trouver une solution. Si la solution n'est pas possible le jour même, se doit de trouver une solution pour la veille ou pour le lendemain du jour où le voyage était prévu. Donc, en tous les cas, ça veut dire que c'est vraiment 100% la responsabilité de la compagnie de trouver une façon de transporter les fauteuils roulants et les autres équipements médicaux ou de transport des personnes en situation de handicap qu'il soit ou non dans les normes établies
de bagages.
L'équipe d'aviation.
Oui, exact. Parce que dans ce cas-ci, on parle quand même de délai raisonnable de la part de M. Rose qui a acheté son billet d'avance, ainsi de suite, puis qui a averti la compagnie aérienne.
Oui, effectivement, donc il avait averti là, 3 mois à l'avance. Et c'est effectivement ce que l'Office des transports du Canada dit. Donc, s'il y a eu un avertissement à l'avance dans les 3 mois, la compagnie se doit de trouver des solutions.
Une solution. Et ça peut vouloir dire changer d'appareil ou des choses comme celle-là, mais... si M. Rose va aller aux Paralympiques à Paris, voilà.
Et donc, effectivement, là, la compagnie aérienne doit trouver un billet avec une autre compagnie si sa propre compagnie ne peut pas accueillir Assurer. M. Rose ou n'importe qui est dans cette situation, ou même elle-même, donc changer ses pilotes et prendre un autre appareil, donc sous-louer un appareil s'il le faut. Mais en tous les cas, il faut que la personne soit transportée donc dans des délais raisonnables, soit la veille, soit le lendemain, étant donné les besoins de la personne.
Ben voilà, et ça donc, ça va être un jugement qui va faire...
Qui va faire jurisprudence.
Tout à fait, et sur lequel d'autres personnes dans la même situation pourront s'appuyer. Évidemment, on est certain que ça doit grincer des dents quelque part. Parlons de transport. Il y a un truc qui revient beaucoup à la mode de ce temps-ci, et moi je dis, personnellement, si j'avais la capacité de pouvoir me promener en trottinette électrique, j'aimerais bien ça. Ça a l'air vraiment le fun.
Oui, moi aussi, j'aimerais bien.
Ça a l'air
moi non
vite,
plus, c'est pas...
C'est plaisant.
C'est pas du tout dans mes cordes.
Non.
Par contre, c'est dans les cordes de plusieurs Montréalais.
Mais ça a vraiment l'air le fun, la trottinette électrique, par exemple, mais il faut l'encadrer.
Oui, donc Québec autorise la circulation des trottinettes électriques dans les rues où la vitesse est de 50 km/h ou moins. Les trottinettes doivent circuler dans la piste cyclable quand ce n'est pas le cas. Par contre, ça pose des questions au niveau de la sécurité des piétons et particulièrement donc de la sécurité des piétons qui ont une situation d'handicap, par exemple les personnes qui sont malvoyantes.
Parce que les trottinettes font pas de bruit.
Les trottinettes ne font pas de bruit, effectivement. Donc, on ne peut pas les entendre arriver. Et ça cause des problèmes au niveau de la sécurité. On peut percuter des gens et personnes qui n'ont pas une bonne vision pourraient ne pas venir voir l'obstacle. Donc, forcément, c'est quelque chose qu'il faut voir et il faut prévenir.
À Montréal, parce qu'à Montréal, ils pensent réintroduire les trottinettes électriques
cet été sur l'île Saint-Étienne comme projet pilote. Ouais. Et on veut le rétablir sur le reste de Montréal. Et donc, il faut s'occuper de ça et voir à quel point, qu'est-ce qu'on va faire pour être capable de favoriser la bonne entente et éviter les accidents.
Tout à fait. Ah, puis pour avoir été en Europe, il n'y a pas très longtemps, dans des villes où les trottinettes électriques étaient en usage... totalement libre et non réglementé, là, c'est un petit peu hallucinant se promener dans une ville où déjà il y a beaucoup de mobylettes, mais les mobylettes, on les entend venir. Les trottinettes électriques, là, c'est comme une autre paire de manches. Ben voilà, ça va être tout pour aujourd'hui, Lisanne. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et je ne peux pas m'empêcher de saluer Norton, qui est une bonne bête d'accompagnement qui est juste ici près de nous en studio.
Il n'est pas très bavard, mais il est très gentil.
Il fait son travail. Merci,
voilà,
Norton. Voilà. Merci à Claire Guérin aussi à la recherche. On recommence à une nouvelle saison ensemble. Mathieu Tessier à la technique. Et on vous dit à la semaine prochaine, midi.